Et me voici donc boulevard Port-Royal, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est très bruyant ce petit matin. Il fait frais, un petit soleil automnal. Pour un portrait au saut du lit, ou presque, de Philippe Solers. Que dire sur Philippe Solers? Il est tout Philippe Solers. Éditeur, auteur, écrivain, comédien, dandy, provocateur. Le jeu des masques. Alors quel est le Philippe Solers de ce matin? Pas de croissant, pas de pain au chocolat. Monsieur n'a pas faim, monsieur n'est pas gourmand ce petit matin. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'il habite juste à côté d'une chocolaterie qui s'appelle Jadis et Gourmande. Je suis sûre qu'il est du genre à aller venir faire un petit tour au petit matin, voir les gourmandes de Jadis. Il m'a donné rendez-vous dans sa garçonnière, figurez-vous. Alors, j'y suis. Je suis vraiment à l'heure. Et je cherche le code. Ah là.
Ça s'appelle le
malheur. Bonjour.
Ça s'appelle le malheur. C'est bien.
Et encore, je suis passée chez Jadis et Gourmande pour vous offrir un petit chocolat.
Oh, c'est gentil, mais je vous l'offre à vous.
Mais non, non, non.
Je vous l'offre à vous, j'en mange pas. Attendez.
Sérieux ?
Je vous l'offre à vous.
Non, en plus, je trouvais que Jadis et Gourmande, ça vous allait vachement bien.
Oh.
Si, les deux mots vont bien.
C'est joli, en tout cas, le magasin.
Jadis et Gourmande. Bon, ben, j'ai fait un flap avec mon chocolat. Monsieur n'est pas gourmand.
Comment ça va depuis le temps ?
Ben, bien. Alors, c'est ici votre garçonnière ?
Garçonnière, c'est...
C'est ici que vous travaillez ?
C'est pas tout à fait le mot. Ah. Ben oui, c'est là. C'est mon studio.
C'est chouette.
Bon, comment se met-on ?
Alors...
Moi, je me mets par terre.
Non, on peut se mettre par terre tous les deux. Hein.
Moi, ah ben d'accord.
Ouais, moi j'aime bien. C'est plus confort.
C'est très bien.
Hop. Donc on est assis tous les deux par terre. Philippe Solers, vous pouvez me décrire ce lieu ? Alors vous me dites que c'est pas votre garçonnière ici. C'est quoi là ?
Ben écoutez, c'est un studio qui est dans un étage élevé. Et un studio, ça veut dire à la fois studio d'enregistrement, c'est comme si nous étions dans un studio, mais ça veut dire aussi étude. Il y a un de mes livres qui s'appelle Studio, d'ailleurs, où je fais état de la partie la plus cachée de mon existence, c'est-à-dire que le matin, je viens ici pour travailler, pour écrire.
Tous les matins ?
Tous les matins, le plus tôt possible, parfois très tôt. Je ne pourrais pas écrire à l'endroit où je vis. C'est-à-dire que je n'habite pas ici, bien que je puisse y dormir si je veux, et faire ce que j'entends faire d'autres. Mais je ne me lave pas ici, je ne pourrais pas être tranquille s'il n'y avait pas un lieu de silence complet qui m'isole absolument de toute autre activité. Donc ça veut dire mener une vie quand même extrêmement compartimentée. Voilà.
C'est-à-dire que l'écrivain ne pourrait pas bosser, écrire chez lui.
Je ne sais pas comment font les autres. Moi, c'est absolument impossible dans la mesure où j'ai besoin que s'accumule du silence. Et même, d'une certaine façon, un peu de poussière. Je pense toujours à cette formule admirable de Picasso qui était dans son atelier. Il avait un appartement en dessous, il descendait, enfin voilà, pour avoir la vie. La vie, ça consiste à être avec des gens qu'on aime, etc. Mais il disait cette chose superbe. La poussière est mon ami. Parce qu'il y avait toujours une femme de ménage qui voulait faire le ménage de l'âme. La poussière est mon ami. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps doit s'amasser tranquillement dans un lieu un peu retiré, qui soit quelque chose comme une cellule de moine ou d'un atelier de peintre. Vous voyez, par exemple, là, c'est un vieux, vieux poste de télévision qui remonte à la préhistoire, dont je ne me sers absolument jamais. Je l'ai conservé comme relique d'un passé pour moi complètement éteint. Ça ne veut pas dire que dans un autre lieu, je ne regarde pas en zappant la télévision, en allant le plus possible sur des chaînes étrangères d'ailleurs. La télévision française étant la plupart du temps ennuyeuse ou bavarde. Mais là, ici, rien. Il n'y a pas de télévision, je n'écoute pratiquement pas la radio, bien que nous soyons en train de parler de prix littéraires et autre chose de ce genre qui vont avoir lieu. Non, vous voyez, le silence, je débranche le téléphone et voilà. Donc si j'arrive ici tôt le matin, vers 7h30, 8h, j'ai jusqu'à 1h30, 2h de tranquillité.
Je suis
Laurence Garcia.
Il y a pas mal de bouquins par terre. Il n'y a pas trop de photos.
Il y en a deux. Une reproduction là-bas, c'est Rimbaud. Et une autre qui m'a été offerte par Gisèle Freund, cet admirable photographe, qui est celle de James Joyce à la fin de sa vie. Vous voyez comme il a l'air jeune et souriant. Je lui avais fait remarquer à Gisèle, qui a été une grande amie, qu'en général, elle avait des photographies de Joyce fatiguée, avec ses problèmes d'yeux, avec la loupe, etc. Là, c'est quelques temps avant sa mort, il est chez Sylvia Beach et Adrienne Monnier. Elle avait pris ses photos. Elle est venue à Paris. La première personne qu'elle est allée voir, c'est Joyce. Mr. Joyce, comme elle disait toujours, avec beaucoup, beaucoup de respect et de distance et en même temps d'amour. Donc ça, c'est une photo de Joyce gay, extraordinairement séduisant, alors qu'il est sur le seuil de la disparition. C'est-à-dire avec l'insolence de la liberté qu'il a eue. Voilà. Sinon, vous n'avez pas de photo, mais vous avez quand même, vous pouvez remarquer la fréquence avec laquelle des idéogrammes chinois apparaissent. Ce n'est point un hasard, c'est-à-dire que la calligraphie me requiert beaucoup. Là-bas, vous avez une petite reproduction du Temple du Ciel qui est à Pékin. Et ici, derrière vous, à droite, vous avez à la fois une lithographie mythique, hein, c'est des deux dragons, etc. fondamentaux, mâles et femelles, qui échangent hiérogamiquement leurs attributs. Vous avez ce rouleau admirable que j'ai ramené de Chine, qui est vraiment un poème, enfin avec, dans des bambous. Vous avez sur la table encore des calligraphies, vous avez encore de la calligraphie ici, vous avez encore un vase chinois bleu et blanc, parce que le bleu et le blanc chinois sont des choses absolument admirables. Voilà, donc vous êtes dans une atmosphère en plein Paris de silence, non pas tibétain, mais chinois.
Mais vos livres, à vous, ils sont où d'ailleurs ?
Vous en avez un certain nombre ici, vous avez une autre pièce où ils sont... Voilà, j'ai pas besoin de les avoir tous sous les yeux. Il suffit que je vous pointe celui-là qui va paraître en janvier. Vous voyez, par exemple, qui va faire 944 pages. Le titre, c'est Discours parfait. C'est le troisième tome des essais que j'ai pu réaliser. Le premier s'appelle La guerre du goût, le deuxième Éloge de l'infini. Et maintenant, nous sommes avec Discours parfait, un titre modeste, bien sûr, qui est un titre d'un livre hermétique grec du 4e siècle. Cela dit, écoutez.
Vous êtes en pleine relecture, là, ou quoi ?
Oui,
vous êtes...
oui, je suis en train de corriger les épreuves. Ouais. Voilà. Donc, voilà, si je n'avais pas ce mode de vie, je ne pourrais pas faire ça, c'est évident. Mais il ne faut pas le dire. Je préfère passer pour quelqu'un de tout à fait léger, pas sérieux, etc.
Il y a une présence féminine ici ou pas ? Alors, je vois une femme, là.
Dans cette pièce.
On peut regarder, non ? Allez, j'hésite.
Bon,
alors,
une présence féminine, oui, ou ben...
Mais que des bouquins, que des bouquins.
Là, vous
oula avez... Oula là là là. Ah oui, c'est des pièces à livres. Comment vous y retrouvez là-dedans ?
Et là, vous avez Julia. C'est une photo ramenée de Chine. Voyez, ça, c'est une photo qui date de 1974. Quelle femme ravissante, ouais. Non ? C'est la mienne.
Elle vient parfois ici.
Je vais vous la dire comme Sarkozy. Comme Sarkozy. Elle est pas belle, ma femme ? Hein ? Oui, elle est...
Je savais que vous étiez doué pour les imitations.
Ah oui. Voilà, vous pouvez visiter.
Aïe. Il y a des pièces à livre. C'est rangé, c'est thématisé. Là, par exemple.
Voilà, je vais vous montrer voilà, le prochain livre.
T'as écrit un patte de mouche, d'où la loupe.
Voilà. C'est quoi, je suis content quand tout est bleu et que ça ait l'air. Voilà, vous voyez, surface aquatique. Ah, voilà, ça c'est le vrai travail. Mais il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Vous n'avez rien vu. Je suis quelqu'un de tout à fait superficiel.
Oui, bien sûr, on le savait ça. On le savait. Ah oui. Alors, c'est là aussi où vous fumez, hein. Je ne le dirai pas, mais...
Voilà la dédicace à laquelle je tiens le plus.
André Breton.
Manifeste sur un livre, voilà. Regardez, lisez.
Ah, Philippe Solers, aimé des fées. Voilà. Ah, c'est génial.
T'es un spécialiste.
Aimer des fées.
Voilà, il y a des fées. Et oui, il y a des fées, il y a des sorcières. Et au milieu...
Et dites-moi, vous aviez quel âge à ce moment-là ? Lorsqu'on a Breton, lorsqu'on a Aragon, lorsqu'on a...
C'était tout à fait mes débuts, oui. J'ai connu tous ces gens, oui, bien sûr. Oui.
On se dit que la barre est haute quand même, qu'on ne doit pas décevoir, qu'on est tout jeune romancier, que c'est le succès, oui, qu'on est tout jeune. Et...
Je savais très bien ce que je voulais. Oui. Qui je voulais voir. Je vous dis, 20 ans, 22 ans, 23 ans, allons voir Solers. Ça, c'est comme ça que ça se transmet. Et laissons les gens bavarder.
Thank you.
Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. À quel âge cette machine ?
Voilà, elle a 25 ans, 30 ans. Parce que je ne peux pas avoir un écran allumé devant moi, ça me fatiguerait les yeux, et j'ai besoin d'entendre le bruit de la machine. En réalité, on écrit avec l'oreille.
Vous continuez à écrire avec cette machine à écrire ?
Bien sûr. Ah. Non, je recopie, j'écris tout à la main, et puis de temps en temps, je modifie quelque chose à la machine à écrire. D'abord la main, le stylo, pompe, etc. Voilà, un dinosaure, voilà, je suis. Et puis ensuite, j'ai besoin d'entendre la machine à écrire. L'écran me gênerait, et je ne veux pas voir quelque chose allumé devant moi, voilà. C'est à l'oreille que tout se fait.
Vous avez besoin de ça, quoi. C'est-à-dire dès le matin, vous avez besoin de votre dose de silence, vous partez ici.
Je m'impose un silence tout simplement pour mieux entendre, pour mieux m'entendre et pour mieux écouter ce qui vient et qui veut se dire. Beaucoup de gens parlent, mais peu de gens disent quelque chose.
Votre premier roman, Philippe Solaire, c'était Une curieuse solitude, non ?
Oui.
On y revient. Enfin,
On n'en sort pas dans la mesure où la solitude ne veut pas dire qu'on soit isolé. Bien au contraire, c'est le moment où on peut avoir la plus ample respiration sur le dehors. Vivre en petit, constamment avec d'autres, être ensemble, qui est le grand slogan de l'époque, être ensemble, être ensemble, être ensemble. Voilà, ça c'est le contraire même de ce que je sens et de ce que je fais.
C'est la démagogie, le vivre ensemble, c'est trois mots qui veulent rien dire ensemble.
C'est la société devenue une grande famille qui se bouscule à peu près dans tous les sens, dans le brouhaha, le bruit et dans le vide surtout. C'est pour éviter des questions fondamentales. Bon, c'est d'ailleurs une question métaphysique fondamentale, la naissance, la mort surtout, qui est irréalisée complètement. Donc moi j'essaye d'écouter ce que c'est que d'être vraiment de passage.
Au saut du lit.
On va aller voir Solaire.
Je suis qui je suis.
Laurence Garcia.
Quand j'ai su que je savais lire, ça c'est très tôt, c'est à l'âge de 5 ans.
C'est avant l'école, ça c'est
non, non, ça s'est passé autrement. J'annonnais, c'est ma mère, on était sur un tapis d'ailleurs à la campagne, et j'annonnais, pour aller avec le béaba comme ça, voilà. Puis tout à coup j'ai enchaîné, et ma mère m'a dit, tu sais lire, on était à la campagne. Bon, maintenant tu sais lire. Et ça a été, alors c'est Sésame, ouvre-toi, c'est-à-dire je me revois encore descendant comme un fou les escaliers, petit, tout petit, courant dans la campagne, en me disant je sais lire, c'est-à-dire j'entre dans le monde vrai. Donc vous verrez que bientôt, enfin dans un temps assez court d'ailleurs, la personne qui... Je sais de quoi je vous parle, puisque je m'occupe d'édition, de lecture, etc., donc dans la vie courante. Donc vous verrez qu'on montrera du doigt, avec le temps, quelqu'un qui sait lire, c'est-à-dire qui a plus de trois lignes et qui comprend ce qu'il lit. Ça sera une exception considérable, mais presque sacrée. Oui, oui, absolument. C'est déjà le cas. Ça va s'aggraver et un jour, on dira, mais vous savez qu'il y a là quelqu'un qui sait lire. On va aller le voir. On va aller voir Solaire.
On va aller voir Solaire. Solaire, c'est un pseudo. C'est un personnage, Solaire.
Écoutez, j'étais bon en latin, c'est un mot que vous trouvez dans un dictionnaire latin-français, solaire, solercia, solertis. Voilà, c'est le grec polytropos pour Ulysse, c'est-à-dire c'est la traduction l'homme aux mille tours, l'homme, le rusé, l'intelligent, voilà.
C'est vous qui avez choisi ce nom ?
Mais oui, puisque j'ai publié mon premier livre, la majorité était à l'époque à 20, 21 ans, donc j'étais plus jeune, ma femme, je ne voulais pas compromettre ma famille, j'ai eu tout à fait raison. C'était un personnage que j'avais inventé en lui donnant ce nom, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu comme Ulysse, quoi, parce qu'il est mon grand héros dans la vie. Ulysse. Mmh. Voilà, l'Odyssée, qui est une merveille absolue. On n'a pas fait attention, et comme tout se perd maintenant, si on interroge comme ça un micro-trottoir, vous connaissez l'Odyssée, Ulysse, alors oui. Il est protégé par quelle déesse ? Ah, vous voyez, c'est très important. Ulysse est protégé. Ce qui m'a ennuyé un peu, c'est la disparition des déesses, grecques. Bon, il est protégé par Athéna, qu'il appelle son grand cœur d'Ulysse, qui intervient constamment dans l'Odyssée pour lui. Voilà.
Moi, je ne me souvenais plus, alors pardon.
Voilà. Alors, les déesses, vous savez, c'est pas rien, les dieux non plus. On dit Jupiter, mais il faut dire Zeus. Les dieux grecs sont très en danger. Ils sont très en danger, je les soutiens. Tout ça pour vous dire tout simplement que les morts sont beaucoup plus vivants que les vivants. Les morts sont en grand danger.
Vous pensez ?
Oui.
Surtout en ce moment, là, peut-être, en ce moment, non ?
De plus en plus, oui, oui. C'est la dévastation générale, oui. Et en même temps, plus tout s'effondre, plus tout est dévasté, et plus le noyau dur résiste et monte.